Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble, 90.8.
Au cœur de la maison familiale des Bergès, métamorphosée en musée, reposent deux précieuses sculptures et œuvres rendant hommage à la houille blanche, incarnation de l'hydroélectricité. Plongés dans un décor des années 1900, pensé par la famille elle-même, les visiteurs sont conviés à revivre l'épopée industrielle et artistique des Bergès à travers un parcours immersif. Dès l'entrée, le hall d'honneur se présente comme une première mise en lumière de cette fascinante histoire.
Le hall d'honneur qui met en majesté la houille blanche, cette allégorie de l'hydroélectricité que vous voyez juste derrière moi, qui est un monument, une sculpture qu'on doit à un artiste grenoblois qui s'appelle Auguste Davin, un ami de la famille Bergès, et voilà, qui met en scène comme ça cette nouvelle forme d'énergie pour la rendre, pour l'incarner, pour la rendre plus familière, plus connue.
Aristide Bergès, fils de papetier, a choisi de s'établir à Lancet dans les Alpes pour exploiter les ressources hydrauliques de la montagne et produire de la pâte à papier.
Il va améliorer un défibreur qui est une grosse râpe qui permet de râper le bois et qui au milieu du 19e siècle va permettre de changer la technique de fabrication de la pâte à papier. Il va aussi installer en montagne des tuyaux, des conduites forcées au bout desquelles il installe des turbines qui vont entraîner donc ces grosses râpes à bois qui vont lui permettre de produire de la pâte à papier en quantité avant de la vendre à ses clients.
Par la suite, il va agrandir son usine et produire du papier. Il installe une dynamo dans le bâtiment qui permet à ses machines de fonctionner jour et nuit. Parmi les pièces remarquables de la maison, le décor du bureau d'Aristide Bergès a été soigneusement préservé. Il conserve entre ses murs le grand portrait officiel de l'industriel, réalisé par l'ami de la famille Alphonse Muchat. Il est le symbole de son histoire en une image.
On voit Aristide Bergès qui est accoudé sur une conduite forcée, voilà, pour rappeler l'importance de ces aménagements hydrauliques sur le massif de Belledonne. Il est entouré et regardé très amoureusement par la houille blanche, l'allégorie de l'eau, de l'hydroélectricité. Je dis amoureusement parce que ce sont les traits de sa femme, Marie Bergès, qui ont été donnés ici à la houille blanche. Et puis tout au sommet de cette image, vous voyez les trois grands pics de Belledonne. Hein. C'est une histoire qui se déroule ici dans les Alpes, une histoire d'eau, une histoire d'industrie à l'arrière-plan. Vous verrez aussi les papeteries hein, pour lesquelles toute cette énergie a été développée, les papeteries de Lancet qui brillent de mille feux, elles sont modernes, elles sont éclairées à l'électricité.
La maison Bergès offre un riche terrain d'interprétation où les symboles de l'eau, de la turbine et de la roue, combinés à des récits personnels, invitent à une exploration profonde et variée.
Et bonjour à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Donc vous venez d'écouter un petit reportage sur la maison Bergès, donc quand l'art rencontre l'industrie. Donc aujourd'hui on va parler de l'exposition Brique Hydro, de l'eau à l'électricité. Elle est accessible jusqu'au 17 mai si je ne me trompe pas à la maison Bergès. Et donc avec nous aujourd'hui pour nous présenter l'exposition, donc on a Madeleine Hofer, la conservatrice du musée. Et Frédéric Virieux, la chargée des publics et des collections de la Maison Bergès. Donc bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
Beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi cette exposition Brique Hydro, elle est cohérente avec la Maison Bergès, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Cette exposition, elle s'inscrit vraiment... en lien avec notre parcours permanent. Dans le petit reportage précédent, vous avez pu entendre justement ce lien qui existe entre l'exploitation de l'eau des montagnes et la fabrication de la pâte à papier. Mais ce n'est pas seulement de l'énergie j'ai employé des mots un peu compliqués, de l'énergie hydromécanique, donc qui fait fonctionner les défibreurs qui permettent de râper le bois. Mais ça va être aussi, à partir de 1882, la production d'hydroélectricité qui va servir à éclairer l'usine d'Aristide Bergès. Et cette exploitation de l'hydroélectricité, son dernier fils, qui s'appelle Maurice, va participer justement à cette nouvelle aventure en installant plusieurs centrales hydroélectriques dans le Grésivaudan. Et donc cette exposition Brique Hydro de l'eau à l'électricité, c'est un peu toute l'aventure de l'hydroélectricité, donc depuis l'exploitation seulement des moulins pour la production mécanique, jusqu'à aujourd'hui avec des barrages. Et donc là, on se place sur une échelle un peu plus large que le Grésivaudan. Et on parle de l'histoire hydroélectrique et hydraulique depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours.
Après, il me semble que... Alors, moi, je suis allée visiter l'expo. Et du coup, vous avez quand même pas mal d'exemples qui sont dans la région. Est-ce que c'est parce qu'on n'a que des exemples dans la région ou que c'était une volonté de mettre en valeur justement ces infrastructures dans la région?
Du coup, c'est plus une idée de mettre en valeur les infrastructures régionales et puis de s'appuyer sur nos collections aussi. Vous avez dû voir dans l'exposition, notamment, on présente beaucoup de photos anciennes de centrales hydroélectriques. Les Bergès en avaient installé 7. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer des collections qu'on ne montre pas forcément dans le parcours permanent. Mais l'hydroélectricité, on la trouve sur tout le territoire. C'est une exposition qu'on a fait aussi en partenariat avec EDF Hydro, et en particulier la branche qui se trouve dans la région. Donc nous, notre idée, c'était aussi de nous inscrire dans le territoire sur lequel se trouve le musée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi des barrages plus locaux, même s'il y en a ailleurs que dans les Alpes.
On espère quand même. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que Aristide Bergès, c'est un peu la fondation de votre exposition? C'est un peu le pionnier aussi de cette énergie hydroélectrique.
C'est l'un des pionniers, effectivement. En fait, l'idée de l'exposition, elle est venue également dans le cadre du centenaire d'un événement qui a eu lieu à Grenoble en 1925, un grand événement qui s'appelait l'Exposition internationale de la houille blanche et du tourisme, donc qui était un grand rassemblement des producteurs autour de la houille blanche, avec une volonté d'inscrire la ville comme capitale économique des Alpes. Et donc c'était il y a 100 ans. Et en 2025, le musée s'est inscrit dans un centenaire pour justement commémorer cette histoire assez locale, assez importante. Aristide Bergès, ce n'est pas le seul à inventer. Enfin, c'est pas lui qui invente l'hydroélectricité, mais en tout cas, c'est une figure assez importante parce que il joue un rôle de promoteur, de communicant, et il a vraiment le souci de rendre ça visible auprès du grand public, d'inventer des sortes de slogans, de faire accepter cette nouvelle source d'énergie qui est quand même quelque chose d'assez... c'est un contraste à l'époque, c'est quelque chose de très très novateur. Il parle de houille blanche justement en opposition à la houille, le charbon, des profondeurs. Et c'est vrai que c'est pour la société, c'est vraiment... un grand changement dans la façon dont on va exploiter les ressources naturelles.
Bah, il me semble même que à un moment il proposait d'éclairer tout Villers-Bonneau et même d'éclairer une partie de Grenoble.
Oui.
Avec l'hydroélectricité, si j'ai bien lu les panneaux du musée, c'était quand même des gros projets.
C'est ça, et par exemple il a une maxime qui dit un sou par jour et par ampoule pour justement faire adopter cette nouvelle énergie en disant qu'elle est peu chère, qu'elle est proche de nous et qu'elle est locale finalement, puisque l'hydroélectricité c'est quelque chose qui provient des montagnes qui sont vraiment, qui nous entourent à Grenoble.
Et finalement elle est aussi propre, on était sur de l'écologie avant qu'on en parle beaucoup au final. Et d'ailleurs votre exposition, donc, elle s'appelle Brique Hydro. Donc elle a une petite particularité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette petite particularité ?
Oui, on peut vous en dire plus. Donc c'était une exposition qui parle de techniques hydrauliques et hydroélectriques. Et on s'est dit qu'on aimerait bien intéresser le grand public et les familles, donc les adultes et les enfants. Et du coup, on a réfléchi et on s'est dit que cette exposition, on la voulait très ludique. Vous qui l'avez visité, vous avez vu, il y a des jeux dans la salle d'exposition temporaire avec des réponses à chercher dans les images ou dans les textes. Il y a une grande illustration colorée où il faut chercher des détails. Et puis surtout, on a fait appel à des constructeurs de Lego pour réaliser un moulin, donc le moulin de l'Orpe, donc qui est le moulin de la famille Bergès dans les Pyrénées, parce que Bergès il est originaire des Pyrénées, et sa famille fabriquait déjà du papier en utilisant un moulin hydraulique. Et donc les moulins, c'est un peu les ancêtres des usines qui utilisent l'hydraulique pour faire fonctionner leurs machines. Et puis, ces constructeurs de Lego, donc, on a fait appel à Unibric pour construire des barrages en Lego, avec le concours aussi d'EDF, puisque c'est une exposition un peu en partenariat avec eux. Et puis, on a fait appel à The Brick Detective pour la réalisation des centrales hydroélectriques réalisées par les Bergès, parce qu'on s'est appuyé sur nos collections. Et puis, pour une énorme maquette qui se trouve au centre de l'exposition, qui est une maquette en fait en cours de réalisation, parce que c'est une maquette participative. Et bien, du coup, on a demandé donc à Olivier de The Brick Detective de nous concevoir un paysage de la houille blanche, donc de l'hydroélectricité grâce aux sommets enneigés qui vont fondre et qui vont alimenter les conduites forcées, les turbines. Donc, et ça, on va le compléter tous les troisièmes samedis du mois jusqu'à la fin de l'exposition. Et donc, c'est assez sympa de voir comment cette maquette, elle évolue. Ouais.
Ouais. C'est vrai qu'en plus, elle est assez imposante, la maquette, et c'est... petit carré par petit carré de blocs de Lego.
C'est ça.
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné parce que je suppose que vous avez vu les gens... Est-ce que vous avez vu les gens construire des Lego déjà ? Est-ce qu'ils les ont construits sur place ou est-ce qu'ils les ont construits dans leurs ateliers ?
Non, alors ils les ont construits dans leurs ateliers et ils n'ont pas tout à fait les mêmes méthodes de construction.
Ok.
Voilà, Unibric a réalisé des plans en 3D. Qui nous donnait déjà un visu de ce que ça allait pouvoir donner. Et The Brick Detective, c'est plus des plans dessinés ou des échanges avec nous aussi. Voilà, on lui avait envoyé beaucoup de photographies anciennes. On a été visiter les centrales hydroélectriques avec lui, avec le directeur de Hydrocop, qui est le propriétaire notamment de la centrale de la Ferrière d'Alvar, donc qui est vraiment la plus grosse. Qu'on voit en écorché, donc on voit aussi l'intérieur à travers le toit. Et il a pu lui poser des questions, voilà, savoir combien il y avait de groupes hydroélectriques. Si vous avez regardé d'un peu près, vous avez dû voir les ponts roulants à l'intérieur, les ouvriers.
Oui, c'est vraiment imprégné en fait de ce qu'il voyait, des images d'archives et puis de sa visite sur le lieu. Et tout ça avec des étoiles dans les yeux, à chercher des solutions pour... parce que finalement, les conduites forcées en Lego, ça n'existe pas. Il y a certaines pièces qui n'existent pas, donc il faut trouver des subterfuges, il faut trouver des choses pour rendre ça visible, rendre ça compréhensible avec des pièces en Lego.
La magie des constructeurs Lego.
Exactement.
Et personnellement, c'est laquelle de construction vous préférez ? Est-ce qu'il y en a une que vous préférez dans...
Alors moi, j'ai ma petite préférée. Je pense que Madeleine n'a pas tout à fait la même. Moi, j'aime beaucoup, c'est la centrale de Loury, qui est une centrale dans une grotte, fermée par une verrière.
Moi aussi, c'était ma préférée aussi. Voilà. Elle est super belle.
Oui.
Elle est super belle. Et puis, quand on voit la petite vidéo d'archives qui est à côté, on voit comment ils montaient dans la grotte.
C'est ça.
Mais c'est de la folie. C'est complètement de la folie. Enfin, comment est-ce qu'ils ont acheminé toutes les turbines là-bas ? Enfin... C'est assez titanesque comme travail et c'est vrai que le voir en Lego, on visualise mieux, mine de rien, que juste sur une photo.
Oui, oui, c'est sûr que c'est quand même des prouesses techniques finalement, ces constructions de centrales, c'est l'aménagement des bâtiments, mais aussi faire venir les turbines, faire venir les alternateurs. C'est des pièces qui pèsent plusieurs tonnes et qui, avec les moyens de l'époque, il y a plus de 100 ans, devaient aussi traverser des cols, monter des pentes, etc. Ça se voit sur les photos d'archives, mais avec les Legos, on se rend aussi compte différemment finalement de ces proportions, de ces dimensions. Voilà.
Oui, parce qu'au final, les centrales hydrauliques comme ça, est-ce qu'on en construit encore récemment ou est-ce que c'est surtout des infrastructures qui datent, par exemple, de l'époque d'Aristide Bergès ou d'un peu après?
On en construit toujours. Justement, près du musée, il y a une centrale qui avait été construite par les Bergès et qui a été rénovée récemment et qui, du coup, a vraiment perdu, enfin, n'est plus du tout dans l'architecture d'origine. Là, c'est une architecture purement fonctionnelle pour produire de l'énergie en optimisant le maximum. Et ça, c'est une centrale qui a été construite il y a quelques années. Donc c'est vrai que quand il est possible de garder les centrales, certains producteurs d'hydroélectricité le font. Donc c'est le cas du groupe Hydrocop, notamment avec la centrale de la Ferrière d'Alvar, qui est toujours en fonctionnement.
Oui, parce qu'il me semblait bien qu'elle n'était pas toute jeune non plus.
Elle a été faite par le fils d'Aristide Bergès. Et dans les années 1910, et c'est vrai que voilà, elle est toujours en fonctionnement. L'architecture d'origine a été conservée, et c'est ce fonctionnement-là qui la préserve aussi d'un point de vue architectural, puisque comme le bâtiment est en usage, on arrive il est entretenu. Ce qui n'est pas le cas de certaines centrales, notamment Loury, qui, depuis sa fermeture, se dégrade forcément.
Et puisque, à l'abandon.
Oui, c'est ce qu'on voit sur les images. Oui.
Vous, votre préféré, c'est quoi? Parce que
vous avez esquivé la question. Moi, justement, c'est la Ferrière d'Alvar que je trouve vraiment intéressante parce que, en fait, on voit l'architecture extérieure de la centrale, le fait que c'est des bâtiments qui sont un peu qui reprennent des codes artistiques avec des baies en plein cintre, avec plein d'éléments architecturaux qu'on pourrait retrouver sur des maisons, sur des bâtiments esthétiques. Et en fait, non, ce bâtiment-là, il est purement, son usage est purement technique. Mais c'est vrai qu'il y a un souci du détail, il y a un souci dans l'architecture et qu'on retrouve dans cette maquette en Lego, en fait. Et ce que je trouve passionnant, c'est aussi cet écorché où on comprend bien, donc on voit le chemin de l'eau dans les conduites forcées, qui sont représentés avec des pneus, puisque les conduites forcées n'existent pas en Lego. Et puis on voit l'eau qui coule, qui arrive à l'intérieur de la centrale, qui passe dans la turbine, et puis après qui est remis à la nature via le canal de fuite. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte de comment toute cette énergie, elle est créée, finalement.
Oui, parce que c'est difficile à visualiser quand on n'a pas forcément... sans faire des études là-dedans, mais quand on ne se plonge pas là-dedans, c'est un peu dur à réaliser, surtout que je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à réaliser la quantité d'énergie qui est produite par l'hydroélectricité.
Oui.
On a du mal à visualiser. C'est vrai que quand j'ai lu dans l'exposition, que j'ai lu des panneaux, j'étais en mode, c'est vrai qu'elle fonctionne encore, cette centrale, celle d'Alvar notamment, et que ça disait tout ce que ça fournissait. J'étais en mode, ah ouais, c'est fou. Donc c'est vrai qu'on se rend mieux compte avec des expositions comme ça.
Oui. C'est vrai que c'est une source d'énergie qui aujourd'hui représente 14% de la production d'électricité en France, donc ce qui est vraiment important.
Ce qui est quand même pas mal.
Puisque la majorité de la production d'électricité en France, c'est via le nucléaire. Et la deuxième source, c'est l'hydroélectricité. Et c'est vrai que dans les Alpes, c'est omniprésent. On pense à tous les barrages qui finalement essaiment dans le paysage. Et si vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est une énergie renouvelable. Et qui a quand même une place dans le paysage énergétique contemporain qui est assez importante.
Malgré le fait que certaines constructions, je pense... comment dire? Est-ce que vous avez déjà entendu d'avis de gens qui ont critiqué la vie esthétique d'une centrale, par exemple? Par exemple, je pense notamment au barrage qui est... qui est à côté de Vaujany, je me souviens plus de son nom du tout, mais qui a qui a une structure assez particulière, qui je trouve elle fait un peu tache avec le reste des montagnes autour. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi des gens qui remettent en question l'esthétique de ces constructions ?
Bon, probablement.
C'est vrai que les barrages, en fait, transforment la montagne, transforment le paysage. Et dans l'exposition, on montre bien que, voilà, c'est des choses qui ont été construites à partir, enfin, pour leur, dans leur proportion actuelle, à partir des années 20, des années 30, et puis surtout après-guerre avec la création d'EDF, finalement, puisque c'est l'État qui a permis aussi ces investissements qui sont assez onéreux, assez importants pour construire ces barrages. Et c'est sûr que pour les populations qui ont dû être déplacées, qui ont dû quitter leur village parce qu'ils se retrouvaient sous les eaux de ces grands réservoirs d'eau. C'est des choses qui sont marquantes et qui sont dures à vivre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France en tout cas, les barrages dans ces proportions-là, c'est moins ce qui se développe au terme, enfin, dans le domaine de l'hydroélectricité. Et puis on apprend aussi progressivement peut-être à vivre avec ces barrages-là. Par exemple sur le lac du Monténard, maintenant qu'il y a un lac, c'est aussi une base de loisirs. Il y a ces histoires de multi-usage aussi de l'eau, de l'hydroélectricité qui sont... qui permettent aussi l'acceptabilité de cette énergie.
Oui, je comprends. Et ça, du coup, vous avez choisi de le traduire en Lego. C'était quoi l'idée de base qui vous a fait dire « on veut le faire en Lego » Est-ce que c'était vraiment le fait de rendre l'exposition ludique ou d'intéresser, peut-être d'intéresser un peu plus les gens, parce que c'est vrai que même nous, quand on a vu... sur internet qu'il y avait des Legos, on était en mode « Ah, trop cool, il y a des Legos !» Est-ce que c'était un peu ça ?
C'est un peu les deux. C'était okay. Vraiment aussi intéresser les gens à ces ouvrages. EDF, quand ils ont construit ces barrages, ils ont apporté un soin aussi esthétique à certains d'entre eux. À Tignes, par exemple, il y avait un géant qui s'efface beaucoup, qui commence un peu à disparaître. Donc c'était aussi une façon de le montrer autrement, même pour les centrales. Alors aujourd'hui, on va dire que les centrales anciennes, on les trouve souvent assez esthétiques, ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les centrales, mais il n'empêche qu'elles ont, les centrales un peu contemporaines, elles ont d'autres avantages, elles sont mieux insonorisées par exemple. Je sais que la centrale de la Gorge, là, qui remplace les anciennes centrales Bergès, ils ont quand même apporté la volonté de l'inscrire aussi dans l'histoire, puisqu'ils nous ont demandé pour mettre sur l'extérieur des photos du site avant. Donc du site des papeteries Bergès, et puis une photo qui représente une allégorie de la houille blanche venant au secours de la houille noire, je crois, donc qui est une composition allégorique de Maurice Bergès. Voilà, c'était une façon aussi pour eux de la rendre jolie, cette centrale.
Et puis de rendre hommage à ce qu'il y avait avant.
Voilà, et de s'inscrire voilà, dans un patrimoine aussi. C'est vrai que ces barrages, enfin là je parlais des centrales, mais pour les barrages c'est un peu pareil. Après ils ont une fonction très utilitaire, il faut qu'ils tiennent parce que derrière il y a des millions de mètres cubes d'eau.
On ne peut pas faire que les choses jolies.
Voilà. Et après ils ont quand même un côté très impressionnant parce que souvent ils sont dans des endroits un peu improbables, entre des versants hyper pentus, des fois très étroits.
Oui. C'est vrai. Et puis quand vous les traversez, passez au-dessus en voiture, que vous voyez arriver la grande masse de béton, il y a une petite réalisation en mode oh waouh, si ça s'écroule, c'est un peu une catastrophe quoi.
C'est ça. Et donc à l'époque, je pense qu'on n'avait pas la même attention en fait qu'on a aujourd'hui à la biodiversité, à l'environnement. On était peut-être un peu moins sensibilisés sur ces sujets-là. Ça posait un peu moins de questions. Et puis surtout, on avait besoin de développer de l'énergie, en fait. Il fallait répondre aux besoins de l'époque. Aujourd'hui, probablement, on ne ferait plus tout à fait pareil.
Mais ce qui est assez... D'ailleurs, c'est assez... Enfin, je ne vais pas dire que c'est étrange, mais c'est assez rigolo parce que, mine de rien, les centrales d'avant étaient plus esthétiques. Et... là, aujourd'hui, elles font plus attention à la nature et elles le sont beaucoup moins. Donc, on n'a pas eu vraiment d'équilibre entre tout.
Alors aujourd'hui, même elle, parfois, elle se cache. Par exemple, dans la Romanche, la nouvelle centrale, elle est cachée, on ne la voit plus.
Ok.
Toute la vallée de la Romanche a été renaturée, en quelque sorte. Donc les bâtiments anciens ont été déconstruits. Donc l'idée, c'était aussi de faire revenir la nature. Voilà. Et quand on construit aujourd'hui, par exemple, je sais qu'ils créent des passes à poissons pour éviter que les poissons se fassent blesser. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour préserver la biodiversité. Et même, on a eu la chance de visiter des laboratoires d'EDF. Donc voilà, on peut se rendre compte qu'ils font des analyses assez multiples, qui prennent en compte l'environnement, peut-être plus qu'à l'époque d'Aristide.
Je pense, quand même. Ok.
Voilà, mais du coup, effectivement, les centrales, on va dire qu'elles reprennent moins les codes architecturaux des maisons ou des bâtiments... telles les églises ou pour mettre en valeur, pour rendre ces centrales acceptables, mais elles vont être plus insonorisées ou plus cachées. Donc à chaque époque, en fait, correspond à une façon de construire.
Oui, une façon de faire les choses. Puis après, les Bergès, on était quand même sur une famille qui était très très reliée à l'art aussi, parce que très proche d'artistes. D'artiste, ça va aller. Le dernier fils, du coup, Maurice, si je me trompe pas, il était aussi peintre, en plus de s'occuper de... Enfin, d'avoir repris l'entreprise familiale. Donc on avait aussi sans doute pas la même approche de l'art à cette époque, et d'autant plus dans cette famille-là, je pense.
Oui. Clairement, à travers certaines de ces centrales, il se fait vraiment plaisir.
Bah, celle qui est justement dans une grotte, oui. Je pense pas qu'on aurait tous fait... juste pour le plaisir, les grandes vitres, tout décoré, vitraux. Enfin, c'est quand même une architecture particulière.
Oui, oui, oui.
Et est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait encore, les conduites forcées? Ça, c'est une question purement personnelle, mais est-ce que ça se fait encore? Parce que c'est quand même titanesque, je trouve, comme... Oui. Comme travaux.
Oui, oui, bah c'est sûr que c'est le moyen principal pour acheminer l'eau, pour qu'elle gagne en force, en fait, par la différence d'altitude. Et les conduites forcées sont toujours... alors, soit les conduites forcées d'origine sont réparées, soudées, etc., pour être toujours en fonction. Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, avec les conduites forcées le long vers le lac du Crozet, où il y a encore des portions anciennes, finalement, qui sont riftées d'il y a 100 ans. Et puis après, quand on construit des nouvelles centrales ou qu'on relie des centrales entre elles, les conduites forcées, on installe de nouvelles conduites forcées. Et à chaque fois, c'est des travaux titanesques parce qu'il faut les inscrire dans la montagne, il faut quand même les sceller pour qu'elles
ne
partent pas avec, voilà, avec la force de l'eau. Et ça, c'est des prouesses, ça, c'est important. Et on ne se rend pas forcément compte, mais il y a différents diamètres aussi de conduites forcées, des diamètres assez petits, de 50 cm, et puis après, il y en a où on peut marcher dedans. Enfin, c'est des proportions assez titanesques, oui.
Ah oui, et puis là, ce que vous dites, si ils utilisent des anciennes portions, c'est assez... C'est aussi assez impressionnant qu'on ait encore des anciennes portions qui soient encore en état, parce que la force de l'eau, c'est quand même quelque chose de... Bah, de destructeur, mine de rien. Donc, c'est vrai que le passage de l'eau dans des conduites comme ça, à très grande vitesse, ça aurait pu beaucoup les abîmer.
Oui, je pense. C'est pour ça qu'elles sont entretenues et bien vérifiées aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque d'éclatement.
Qu'on n'ait pas un tsunami dans la vallée.
Voilà.
Oui, je vois. Et est-ce que vous avez eu du succès, justement, avec tout ça, là, toute cette... Enfin, aborder... cette thématique avec des Legos, est-ce que vous avez eu des bons retours de la part des gens? Bon, de la part des enfants, je pense que oui. Sans vouloir trop m'avancer, je pense.
Oui, bah ce qui est chouette, en fait, pour l'instant, c'est que le public, notamment ceux qui viennent les troisièmes samedis du mois pour construire cette grande maquette, ils sont attirés par l'aspect Lego. par l'aspect construction. Et après, ils découvrent bah, aussi bien la maison Bergès, puisque parfois certains ne sont jamais venus visiter ce musée. Et puis aussi, ils découvrent cette histoire, en fait, via les photos d'archives, et ils se rendent compte un peu des proportions. Et en fait, même si, enfin, le Lego, c'est le, comment dire, le, ce qui fait appel, ce qui attire les gens. Et après, derrière, ils apprécient le discours, ils apprécient ce qu'ils y découvrent. Donc ça, c'est vrai que c'est assez important. Et vous évoquiez tout à l'heure le choix des Legos. Moi, je pense que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le terme houille blanche, c'est un terme qu'on entend peu. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et Aristide Bergès, on ne sait pas forcément qui c'est. On le voit dans des noms de rues, on le voit sur des noms de lycées, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas une figure qui est connue par tous. Et donc là, l'aspect Lego permet de, bah, d'attirer un public et puis après d'expliquer. Et je pense que ce rôle, c'est aussi un des rôles du musée, de sensibiliser, de faire comprendre un peu l'histoire et de questionner les enjeux contemporains auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui avec cette énergie qui perdure.
Oui, je vois. Pour moi, pour la petite anecdote, mon école primaire s'appelait la Houille Blanche et que j'ai appris très très tard que c'était... que c'était électricité blanche, moi on me l'avait expliqué comme ça à ce moment-là, et j'ai compris encore plus tard toute cette histoire un peu locale avec Aristide Bergès, donc et j'étais jamais venue à la maison Bergès, c'est la première fois que je venais pour cette exposition.
C'est vrai qu'on est un musée un petit peu excentré, on est à une quinzaine de kilomètres de Grenoble, mais après la chance, bon, c'est qu'aujourd'hui c'est relié avec des transports en commun, on peut venir en voiture, etc.
On peut venir en TER aussi.
Et en fait, on fait partie aussi du réseau des musées du département de l'Isère, donc l'entrée est gratuite et vous pouvez revenir à foison pour découvrir certains espaces, certaines salles, vous pouvez tester, venir et puis vous laisser envoûter par le lieu qui est assez magique. Par les décors intérieurs et par le fait d'être contre la montagne.
Et d'avoir l'énorme usine vous affectée derrière, qui est aussi assez impressionnante. Enfin, le contraste entre la petite... Enfin, la petite. Elle n'est pas si petite que ça, la maison, d'ailleurs. Entre la maison où on voit que c'est de l'habitation et la grosse usine derrière. C'est assez impressionnant à voir, je trouve. Puis, vu qu'on ne fait que monter et que c'est vraiment la montagne derrière... Je trouve que c'est quelque chose à voir de venir jusqu'à vous. Et que c'est pas si compliqué que ça, de venir jusqu'à vous.
Non, c'est simple.
Ça se fait. Très bien. Franchement, on avait regardé, et donc pour les intéressés, le TER, il va jusqu'à la gare de Lancé. Et après, vous avez, je crois, 10 minutes de marche pour aller jusqu'au musée. Oui. Donc, ce n'est pas une excuse de... vous n'avez pas de voiture. Le TER, ça marche aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant l'exposition, donc les ateliers les troisièmes samedis du mois?
Et puis, il y a quand même une partie de l'exposition qui est aussi en lien du coup avec le parcours permanent. Et notamment, on avait fait restaurer une très grande maquette de la vallée du Grésivaudan, qui fait à peu près 11 à 12 mètres carrés, qui se trouve dans la première salle du musée. Et qui montre justement les installations d'Aristide Bergès. Cette maquette, c'est Aristide qui l'avait fait faire, en tout cas en partie, pour l'exposition universelle de Paris en 1889.
Elle est folle, cette maquette. Voilà. Elle est énorme.
Elle est très belle. Et on voit presque en vrai, en fait, la vallée dans sa totalité, donc ça permet aussi de voir, de mieux se rendre compte des dénivelés, de l'altitude des sommets où se trouvent les réservoirs en fait hydrauliques sous forme de neige. En clin d'œil, la maquette participative, c'est un petit bout de cette maquette, voilà. Puis, peut-être vous avez vu à l'entrée de certaines salles aussi, on a mis des petites plaques Lego qui signalent les salles où vraiment il est plus question d'hydroélectricité d'hydraulique dans le parcours permanent. Donc c'est aussi quelque chose qui se déploie comme ça dans les salles du musée. Et puis à l'extérieur, peut-être vous avez vu aussi les photos anciennes.
Nous, on en a vu quelques-unes, mais on ne s'est pas attardé parce qu'il ne faisait pas... hyper beau le jour où on est venu, malheureusement, qui faisait un peu froid, donc on s'est pas trop attardé dehors. Mais c'est vrai que on a surtout regardé l'énorme turbine
oui.
que vous avez dehors. Et puis moi, c'est après avoir vu les photos, j'étais en mode « Ah, mais là, il y avait un pigeonnier ici ! C'est fou !» Là, moi, j'étais plus comme ça, en mode « Oh là là, il y avait ça là, il y avait ça là !» Et c'est vrai qu'on a moins regardé les photos, nous.
Mais si vous avez l'occasion, vous pouvez repasser. Vous verrez, on y voit beaucoup de transports assez impressionnants. On y voit aussi des centrales avec l'arrivée des conduites forcées. Enfin, ces photos, elles sont vraiment très très belles. Et quand on commence à les regarder en détail, on se rend compte de l'importance de ces matériaux, de l'aventure que c'était de les transporter.
Oui, parce que pour l'époque... Alors ça, il y en a dans l'intérieur du musée, certaines photos où ils transportent. Et c'est vrai que quand on voit les photos, on se dit « Oh là là, mais quel truc de fou !» Enfin, c'est quand même... Enfin, se lancer là-dedans, fallait quand même avoir un petit grain de folie, je pense.
Oui.
Et bien croire en soi, aussi.
Voilà. Mais je pense qu'Aristide, Bergès, allait toujours... Enfin, c'est un peu ce qui ressort dans nos archives, c'est qu'il allait de l'avant et il voulait arriver à ses fins.
Mm.
Voilà. Donc, c'est un peu ce que retranscrit aussi le parcours permanent. Et puis, donc, en lien avec l'exposition, pour répondre à votre question... on propose à la fois des ateliers et de la médiation pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Notamment avec des experts d'EDF, on propose des conférences. Donc on en a déjà eu une sur les conduites forcées, qui était très intéressante avec Monsieur Brilla. Et là, on va en proposer trois autres, qui seront aussi les troisièmes samedis du mois. Donc une autour de la production électrique, je crois que c'est le 21 février. Une plus autour du génie civil de la construction des barrages. Alors là, il faut que je regarde mes notes parce que je ne me souviens plus de la date. Mais je vais vous dire ça tout de suite. Le 21 mars, ce sera le langage des barrages. Lire les signaux pour protéger les vallées. Ça, c'est une conférence d'Emmanuel Robe. Et le 18 avril, on en aura une plus spécialement autour de l'eau et l'environnement, avec Pierre Bernard, qui est donc expert environnement et eau à EDF Hydro. Il y en a un peu pour tous.
Ouais.
Et puis là, très prochainement, au tout début des vacances de février, on propose plutôt quelque chose d'un peu... comment dire ça ? Songeur ?
Rêveur ? Contemplatif peut-être ?
Non, pas contemplatif, parce que là, il va falloir créatif.
Ok.
Donc c'est avec 1 euro ne fait pas le printemps, c'est un collectif.
Okay.
On va proposer des ateliers et un spectacle, une visite comptée un peu décalée. Pour fabriquer des machines du futur, pour fabriquer de l'hydroélectricité. L'atelier va se dérouler l'après-midi à partir de 14h ou 14h30. Donc on va réaliser une machine, inventer une histoire, inventer un créateur de cette machine. Et ensuite, Laurence Druon va aménager tout ce récit et en construire un spectacle. Et Maud Bonnet, donc, qui est plasticienne, va peaufiner la machine, qui va venir s'installer avec trois autres machines qu'on présente là depuis quelques jours dans le parcours. Et en fin d'après-midi, on aura un spectacle en lien avec ces machines et leur histoire inventée.
Effectivement, c'est un atelier plutôt très créatif même.
C'est ça. Et puis voilà, pendant les vacances, en général, on propose des ateliers soit famille, soit jeune public. Souvent, c'est en lien avec les sciences. Donc faut aller sur le site internet du musée. Mais là, je sais qu'en février, on va proposer quelque chose autour du moulin. Faire un atelier pour comprendre comment ça fonctionne l'hydraulique. Un autre, comment on fait bouger des objets ou des machines sans les toucher. Donc là, c'est plus comment on transmet les forces. Un atelier plus... créatif aussi, avec la création d'un petit Leporello. C'est des petits livres, vous savez, tout en papier là, qu'on peut déplier, sur la thématique de l'eau. Et puis, on va aussi proposer un atelier où on va pouvoir... Alors ça, c'est un atelier qui va durer à peu près une demi-heure, qui va se dérouler tout l'après-midi, de création de cartes postales avec des petits tampons inspirés des motifs hydrauliques.
Trop cool.
Et puis encore d'autres, voilà, y en a un qui s'appelle Newton et le biathlon, la glisse. Donc là, c'est comment...
Pourquoi pas. La dit comme ça...
comme moi, ça, c'est un peu surprenant.
Ça me dit rien, la dit comme ça, mais pourquoi pas.
Et donc, on essaye de comprendre la façon dont l'eau dévale les montagnes, comment la science ça peut permettre de glisser plus vite ou de s'arrêter. Voilà.
Des ateliers plutôt mi-scientifiques, mi-créatifs.
C'est ça. Souvent, c'est un peu le lien. Et le dernier, je crois, ce sera autour du feu.
D'accord.
Voilà, on parle de l'eau et on va parler du feu. Et puis on va proposer un petit spectacle aussi de clown qui s'appelle Sous l'eau. Et ça, ce sera le dimanche 15 février. Donc avec un clown qui va s'intéresser à la production hydraulique et puis à tout ce qui est un peu environnemental. Et ça s'adresse aux enfants, je crois, à partir de 7 ans.
D'accord.
Je vérifie dans mes notes, mais je crois que c'est à partir de 7 ans.
Très bien. Et donc c'est tout. Ça se passe tout. Ça se passe tout au musée Bergès. Les conférences, les ateliers. C'est tout. Tout chez vous.
Tout là-bas. Chez nous. Effectivement.
Très bien. Et ben, est-ce qu'on est tout bon?
Oui. Très bien. Ouais.
Bah moi je vous remercie beaucoup d'être venu parler de cette exposition.
Bah merci à vous.
Moi personnellement je l'ai trouvée super intéressante. Donc pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, si vous avez l'occasion et un peu de temps pour aller, je ne sais pas si vous êtes à Lancé ou à Villarbonneau.
En fait, la commune, c'est Villarbonneau et okay. Lancé, c'est
le hameau.
Le hameau. Et ben, si vous avez l'occasion d'aller jusque là-bas, arrêtez-vous au musée Bergès pour aller voir aussi notamment cette exposition Brique Hydro jusqu'au 17 mai.
Voilà.
Je crois.
Oui, jusqu'au 17 mai. Tout à fait.
Je vais remercier Liam qui a fait notre technique aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle apérophonie. Et on vous laisse ce soir avec les nuits de la lecture. Donc bonne écoute et détendez-vous bien.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.